Théologie scientifique sur le Verbe incarné, le 31 mai 1985, Rimont.
Nous allons continuer. Et en y réfléchissant, je crois que c'est bien de ne pas aller trop vite, parce qu'autrement on bâcle la fin, et puis on continuera l'année prochaine, après tout. On est un peu libre. Il faut maintenir cette sainte liberté. On continuera, plutôt que de parce qu'on a beaucoup insisté sur le début, c'est important, puisque c'est au point de vue de la théologie spéculative, c'est-à-dire la théologie scientifique de saint Thomas, c'est sûrement le mystère de l'incarnation qui pour lui est capital. C'est ça sur lequel tout repose, c'est la base. Hein. Et comprendre ce qu'est le mystère de l'union, il peut s'être comprendre. Préciser dans la foi ce qu'est le mystère de l'union hypostatique. Et c'est ce que nous faisons maintenant encore en voyant la manière concrète dont Dieu a voulu que l'humanité sainte de Jésus soit pleinement assumée par le Verbe. C'est-à-dire à la fois le point de vue des qualités et puis le point de vue des déficiences. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, si nous continuons selon un rythme assez rapide, puisque ça ne pose pas tellement de difficultés, cette question des déficiences, mais c'est quand même très beau. Hein. C'est d'essayer d'entrer dans l'ordre de la sagesse de Dieu, comment Dieu a voulu, dans son amour, le Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Donc, tout est l'effet de cet amour et d'un amour de prédilection. Et nous devons essayer de découvrir à travers ce que nous avons fait les qualités, c'est-à-dire sur ce que saint Thomas insiste tellement, le point de vue de la science du Christ, et maintenant essayer de comprendre que ces déficiences sont comme des moyens pour l'amour du Père de se manifester davantage et surtout pour permettre à son Fils bien-aimé de réaliser pleinement et totalement sa mission. Vous voyez, autrement dit, pour bien comprendre ce que saint Thomas nous dit à propos des déficiences de l'âme de Jésus, nous sommes toujours pris entre deux perspectives, la perspective de l'incarnation et la perspective de la rédemption. Alors, c'est pour ça que c'est assez gênant, au point de vue proprement spéculatif. On est un peu gêné, on le sent bien. On a vu le traité uniquement de l'incarnation, nous n'avons pas encore vu le traité de la rédemption. Or, de fait, on fait toujours appel au traité de la rédemption. Alors, ça peut se faire. Hein. Saint Thomas a pris un ordre scientifique que je comprends très bien. Il ne pouvait pas faire immédiatement traité de la rédemption, traité de l'incarnation, traité de la rédemption, puis voir les conséquences. Non. Il maintient cet ordre de théologie scientifique, de voir ce qu'est le Christ et puis l'opération propre qu'il va réaliser, le mystère de la rédemption. Alors, ce qu'est le Christ est vu dans l'ordre de la sagesse de Dieu, et dans cette sagesse de Dieu, le Christ est venu pour nous sauver. Et si le Christ est venu pour nous sauver, nous devons comprendre la manière dont il va nous sauver. Et donc, nécessairement, toutes les déficiences que Dieu a prévues. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas un porte-à-faux. On serait tenté de dire que c'est un porte-à-faux. Mais ce n'est pas un porte-à-faux parce que c'est vu dans la sagesse de Dieu. Vous voyez ? Et c'est toujours comme la théologie scientifique, elle est vue dans la sagesse de Dieu. Alors, nous allons continuer, si vous voulez. L'article 5, le Christ a-t-il éprouvé une véritable douleur sensible ? Alors on pourrait évidemment dire, allons très vite là-dessus, c'est bien évident, c'est pas si évident. la douleur. Si le Verbe s'incarne dans une nature humaine, il fait normalement que cette nature humaine, immédiatement, soit dans un état de gloire. C'est une permission de Dieu de voir comment la douleur va pénétrer en Dieu. Normalement, la douleur ne pénètre pas en Dieu. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est celui qui est au-delà de tout devenir. Alors, le devenir pénètre en Dieu par l'humanité sainte de Jésus, puisque de fait, il a voulu ce conditionnement humain de la nature humaine. Il a connu la petitesse de l'embryon. Il a connu la fragilité de l'enfant porté par sa mère. Donc le devenir est pénétré d'une façon tout à fait particulière dans le mystère de celui qui est l'immuable. Cette brèche, si j'ose dire, hein. Dieu n'est pas changé en rien, mais l'être est capable de porter le devenir. L'inverse n'est pas vrai, vous voyez. Hein, le devenir ne serait pas capable de porter l'être immuable. Mais l'être immuable peut assumer l'être en devenir. Et en assumant la nature humaine, selon notre conditionnement, parce qu'il aurait pu assumer une nature humaine tout de suite parfaite. Alors à ce moment-là, ce serait simplement, je dirais, la perfection de la créature qui pénètre en Dieu. Mais il a voulu que le conditionnement de l'être, de la créature, un être, surtout la nature humaine, un être capable de devenir, un être qui normalement devient, un être qui implique la croissance. Et vous savez bien que c'est dans l'être humain que la croissance est la plus parfaite. Celui qui connaît le plus grand des développements parmi tous les animaux. Celui qui connaît le plus grand développement. Et donc le développement le plus parfait, la croissance la plus parfaite, pénètre dans l'éternité. Et tout cela pour nous sauver. C'est ça qu'on doit comprendre, hein, dans cette contemplation. C'est pour nous sauver. Dieu veut assumer pleinement la nature humaine dans son conditionnement humain pour nous sauver. Pour être celui qui peut exercer une miséricorde à notre égard unique et une communication de son amour, puisqu'au fond, il nous sauve par la miséricorde en communiquant son amour et par le point de vue de la justice. Hein. Toujours les deux aspects qu'il ne faut pas oublier. Alors ceci, ça fait partie du devenir. La douleur fait partie du devenir, vous savez bien. Une nuit, quand vous souffrez des dents, elle est très longue. Quand vous dormez, ça va très très vite. C'est merveilleux, on a l'impression que on se réveille 5 minutes après. Quand on dort très profondément. Tandis qu'au contraire, si vous avez souffert toute la nuit, c'est long, long, long. C'est très curieux que la douleur sensible nous met terriblement dans le temps. Ça, c'est net. Je crois que c'est ce qui nous met le plus dans le temps. Ce n'est pas la joie. La joie a quelque chose d'éternel. Hein. La joie brûle le temps. Parce que la joie, c'est l'épanouissement plénier de l'amour. Vous ne pouvez pas dire que la douleur, c'est l'épanouissement plénier de l'amour. Hein. La douleur implique toujours un état de violence. C'est pour ça que les êtres qui sont très marqués par la douleur sont des êtres qui pâtissent dans le sens très très fort, et sont marqués par ce point de vue d'un développement qui se fait progressivement et qui leur donne un sens très aigu du temps. C'est par la douleur que le temps s'inscrit de la manière la plus profonde en nous, je crois. C'est pour ça que c'est intéressant cette question de la douleur sensible, voir comment le temps s'est inscrit dans l'éternité. Comment le temps a été porté par l'éternité. et que le temps, marquant le plus l'être humain, Jésus, Jésus est celui qui a souffert le plus, qui a eu l'acuité la plus grande de la douleur sensible. Nous, notre douleur sensible est peu de choses à côté de la sienne. Nous sommes des êtres assez épais. Alors la douleur sensible n'est pas très aiguë. Tandis qu'en lui, la douleur sensible a connu un sommet. Il ne faut pas le rechercher, avoir la douleur sensible la plus grande possible pour être plus proche du Christ. Ce serait un mauvais procédé, ça. Je crois que ce n'est pas ça qu'on doit chercher. On doit imiter Jésus dans son amour et en acceptant toutes les conséquences. Mais pas rechercher à l'imiter dans la douleur la plus grande. Vous savez, c'était le défaut de Port-Royal. Le défaut de Port-Royal, ça a été de vouloir rechercher avec acuité la douleur du Christ. Il y a des spiritualités doloristes comme ça, non ? Qui veulent imiter Jésus dans la douleur, qui veulent imiter Jésus le plus possible. C'est une erreur, parce que ça fait partie des déficiences de l'âme de Jésus. C'est extraordinaire, ça. Donc on ne peut pas chercher la sainteté par là. On doit l'accepter comme une conséquence. On sait très bien que c'est en aimant Jésus qu'on sera plus ou moins crucifié, qu'on sera plus ou moins martyr non sanglant dans une communauté. C'est bien évident, parce qu'on aime Jésus, parce qu'on veut le suivre. Alors on ne cherche pas d'être martyr dans une communauté. Alors ce serait, psychologiquement, c'est très bien comment ça se situerait, ça. Ça se situerait comme des gens qui sont un peu morbides. Une première difficulté, saint Hilaire écrit, puisque mourir pour le Christ, c'est vivre. Vous voyez ? Puisque mourir pour le Christ, c'est vivre. Pourquoi s'imaginer que dans le symbole sacré de la mort, il a éprouvé de la douleur ? Lui qui donne la vie à ceux qui meurent pour lui. Et plus loin, il ajoute, le Fils unique de Dieu s'est fait homme véritable, sans cesser d'être Dieu. Frappé de coups, couvert de blessures, chargé de chaînes, suspendu à la croix, tout cela le faisait sans doute pâtir d'un choc reçu, mais sans lui faire éprouver de douleur. Le Christ n'a donc pas éprouvé de véritable douleur. C'est un texte très intéressant d'étudier de près, hein, de bien comprendre ce que Saint-Hilaire veut dire quand il dit ça. Alors, c'est mis en opposition, très très joli. Voyons tout de suite la réponse de Thomas, puis on reviendra sur les objections. Nous lisons dans Isaïe, « Il a véritablement porté nos misères, il s'est chargé de nos douleurs. » On aurait pu mettre aussi le texte de saint Jean, l'homme de douleur. Voici l'homme de douleur. Exchémo. Voici l'homme. Et c'est en liaison directe avec Isaïe. C'est l'homme. Et c'est très curieux que c'est l'homme de douleur qui représente l'homme. Là aussi, il y a quelque chose de très important à saisir. Parce que l'homme, voici l'homme. Et Isaïe a cette vision très forte. Vous voyez, dans Job aussi, l'homme, c'est l'homme de douleur. On est véritablement un homme que quand on a pâti, un homme qui n'aurait jamais pâti, qui n'aurait jamais souffert. Il y aurait des quantités de choses qu'il ne comprendrait pas. Vous savez bien ce que je vous ai déjà cité, cette chose que nous disions souvent chez les Dominicains. Il fallait toujours élire comme prière un homme qui avait un religieux qui avait un peu mal à l'estomac. Parce que les religieux qui n'ont jamais connu mal à l'estomac sont des mauvais prieurs, vous voyez, parce qu'ils oublient qu'il peut y avoir ces douleurs. Et c'est vrai que la douleur va permettre à la prudence d'avoir un mode particulier. Un homme qui a pâti. L'homme qui pâtit a quelque chose de particulier. Ça, c'est un problème très important qui serait à côté, qui n'est pas directement là, mais qui fait comprendre aussi l'aspect positif de la douleur. Il y a un aspect négatif, déficience. mais un aspect positif. C'est que la douleur va permettre une intériorité plus grande. Quelqu'un qui ordinairement n'a jamais souffert risque de rester un peu superficiel. Tandis que la douleur intériorise. C'est la taille du Père, hein. Et la taille du Père est faite pour intérioriser. La Sainte Homme ne prend pas ce point de vue-là ici. On peut l'ajouter aujourd'hui. Un point de vue plus psychologique, si vous voulez, ce qui serait intéressant à développer. L'homme de douleur, c'est l'homme qui atteint une profondeur, une compassion. C'est parce qu'il a souffert qu'il a été compatissant. Épître aux Hébreux. Et qu'il était obéissant. Ainsi qu'il ressort de ce que nous avons dit dans la seconde partie, pour qu'il y ait véritablement douleur sensible, il faut une lésion du corps et la sensation de cette lésion. Si vous supprimez, un procédé aujourd'hui qui se fait assez facilement, de supprimer la sensation de la lésion. Vous savez qu'aujourd'hui on cherche à ce que les gens ne souffrent plus. C'est vrai, ça, c'est un procédé classique. On vous donne un petit médicament, hein, puis vous ne souffrirez plus. On comprend très bien que quand l'acuité de la souffrance est telle qu'on donne un soulagement, mais rechercher la suppression de la douleur pour la suppression de la douleur, c'est peut-être supprimer une certaine intériorité. Si dès que vous avez un petit mal de tête, immédiatement, dès que vous avez un petit peu de souffrance aux dents, immédiatement, alors quoi ? Vous allez faire des hommes qui ne savent plus lutter. Et donc des hommes qui n'ont plus de force. Et donc des hommes qui n'ont plus d'intériorité. Tandis que si au contraire, vous comprenez qu'il y a des obstacles dans la vie, il faut surmonter, il faut pâtir. Et quand on est victorieux parce qu'on a beaucoup pâti, quelque chose en nous qui se développe. Oui, c'est donc toutes les conséquences. Alors évidemment ici, Saint Thomas, en stricte théologie scientifique, prend la douleur en soi. Qu'est-ce que c'est que la douleur ? Lésion du corps, sensation de la lésion. Lésion du corps, c'est l'aspect de la violence. Pour qu'il y ait douleur, il faut qu'il y ait un couteau. D'une façon ou d'une autre, ou un revolver. Lésion, la lésion du corps. Puis la sensation de cette lésion. S'il n'y a pas sensation de la lésion, il n'y a pas de douleur. Or, le corps du Christ pouvait subir une lésion, étant passible et mortel, donc étant corruptible, ainsi qu'il a été dit plus haut. D'autre part, la sensation de cette lésion ne pouvait lui faire défaut, puisque son âme était en possession parfaite de toutes ses puissances naturelles. Anima Christi perfecte aberet omnes potentias naturales. Sans aucun doute, par conséquent, le Christ a véritablement éprouvé des douleurs. Donc saint Thomas essaie tout simplement de donner la compréhension de toute une donnée traditionnelle. Jésus est l'homme de douleur. Alors, il essaie de comprendre comment pouvons-nous saisir cette douleur. Deux éléments. Le point de vue du corps passible. Le corps du Christ aurait dû connaître immédiatement la gloire, selon une volonté de Dieu, une disposition de la Providence. La gloire de l'âme ne s'est pas étendue au corps. Et le corps du Christ a connu la passibilité, la corruptibilité. Et parce que le corps du Christ a connu pouvait connaître, était un corps corruptible, était un corps passible de mort, par le fait même, il pouvait connaître des lésions, il pouvait connaître les brutalités, la violence. Et, étant donné qu'il y avait en lui une âme parfaite, au point de vue de ses puissances vitales, il y avait donc la possibilité d'avoir une connaissance, une conscience parfaite de toutes ces lésions. Saint Thomas montrera de fait que chez lui, l'acuité de la connaissance et de la conscience était telle que la douleur connaîtra un maximum. Il ne le dit pas ici, simplement ici, il montre la possibilité de la douleur. Alors, je vois tout de suite la réponse à la première objection qu'on disait tout à l'heure. Dans le passage cité et d'autres semblables, Saint-Hilaire n'entend pas exclure de la chair du Christ la vérité de la douleur, mais seulement la nécessité. La nécessité. Et c'est très vrai, parce que normalement, le corps du Christ n'aurait pas dû connaître la douleur. Il l'a connue par une volonté expresse d'amour du Père. Aussi, après les paroles que nous avons rapportées, ajoute-t-il, le Seigneur ne s'est pas montré buvant, mangeant ou souffrant quand il a eu soif ou faim ou qu'il a pleuré. Mais en vue de manifester la vérité de son corps, il s'est plié aux habitudes du corps, leur donnant satisfaction selon que le réclame notre nature. Ou encore, lorsqu'il a pris de la boisson et de la nourriture, il n'a pas cédé à une nécessité corporelle, mais à la manière de faire habituelle. Et en parlant de nécessité, l'auteur se réfère ici à la cause première de ses déficiences, qui est, comme nous l'avons dit, le péché. Ce qui revient à dire que la chair du Christ n'a pas été soumise nécessairement à ses déficiences, parce qu'elle n'a pas connu le péché. C'est pourquoi Saint-Hilaire ajoute « Le Christ a possédé un corps avec une origine propre, son existence ne lui vient pas d'une conception humaine viciée, mais c'est par la vertu de sa propre puissance qu'il subsiste en la forme de notre corps. Néanmoins, si l'on considère la cause prochaine de ses déficiences, qu'est la composition d'éléments contraires, il faut reconnaître que la chair du Christ s'y est trouvée soumise nécessairement. Donc, vous voyez la subtilité que prend saint Thomas ici pour essayer de répondre à Saint-Hilaire. Et c'est intéressant à ce point de vue-là. C'est intéressant toujours d'entendre un saint commenter un autre saint. Nous voyons toujours les défauts en premier lieu. Et saint Thomas fait l'inverse. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce qu'il dit? Nous, spontanément, dans notre monde d'aujourd'hui, où, n'oublions pas, le signe de la modernité, c'est la négativité. Alors, dans la mesure où nous sommes modernes, nous sommes négatifs en premier lieu, et nous sommes en premier lieu critiques. Et donc, immédiatement, nous montrons, ah, ça, c'est faux. Saint Thomas est avant la modernité, grâce à Dieu. Saint Thomas est avant la modernité et il nous apprend au contraire à comprendre que l'affirmation est avant la négation. Donc quand on est en face d'un saint qu'on respecte, on essaie de comprendre positivement ce qu'il dit. En voyant, mais oui, il y a sûrement quelque chose qu'il a saisi. Mais ici, c'est remarquable. Analysez ça attentivement, vous verrez que c'est extraordinaire. La manière dont un saint fait l'exégèse d'un saint. C'est constamment comme ça dans saint Thomas. Et ça, c'est très beau. C'est très beau parce que ça montre que tout en étant un esprit scientifique, il n'est pas premièrement critique. Depuis Kant, on est premièrement critique. Il y en a beaucoup de peine de supprimer le venin conscient. Et le venin conscient, c'est la critique en premier lieu. Donc, c'est la négativité en premier lieu. Alors que, au contraire, chez saint Thomas, et on peut dire au Moyen-Âge, alors aujourd'hui, on dira c'est la naïveté. Optons pour la naïveté plutôt que l'infécondité. Parce que la négation en premier lieu, c'est l'infécondité. Un esprit qui voit en premier lieu la négation, eh bien, il est stérile. Il restera stérile jusqu'à la fin de sa vie. Parce que la négativité en premier lieu, la critique en premier lieu, conduit à la stérilité absolue. Il faut, au contraire, je crois, voir cet aspect positif en premier lieu et essayer de comprendre que la critique est nécessaire, mais elle est seconde. S'il n'y a rien à critiquer, on se critique soi-même, on se tue. C'est très curieux. On verrait des tas d'exemples comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser la pensée philosophique être première. C'est pas la critique qui est première. C'est la philosophie qui est première. Alors elle a une pensée naïve, oui, après tout. Naïve, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rechercher ce qui est. On est naïf quand on recherche ce qui est. Tandis qu'on est critique quand on recherche en premier lieu les erreurs, la négation. La négation cherche la négation. Et la vie cherche la vie. Alors la vie de l'intelligence cherche ce qui est, en premier lieu. Ça c'est très important et c'est très significatif. Vous voyez ces dialogues de saint Thomas avec saint Hilaire, hein, dans le ciel, ils doivent continuer, dialoguer ensemble. Oui.
Est-ce qu'on peut développer au niveau théologique quelque chose qui serait l'équivalent de la critique au niveau philosophique? Donc, organisé.
Sûrement qu'on peut. C'est tout ce qu'on appelle la théologie fondamentale et l'analogue, vous voyez. Mais la théologie fondamentale ne peut exister que s'il existe une théologie.
Avant.
La théologie avant, c'est évident. Avant.
Donc elle est bien.
Parce que si vous prenez la théologie fondamentale avant, vous ne savez pas d'abord ce que c'est que la théologie.
Donc vous voyez. Elle est bien dernière,
la théologie, de fait, si vous regardez l'histoire de la pensée, les pères de l'Église sont d'une simplicité, d'une croyance. Ils ont la foi plénière en la parole de Dieu. Nous, nous avons de la peine à recevoir la parole de Dieu, la parole de Jésus, comme une parole qui nous est donnée. On veut savoir avant si on peut être sûr que c'est une parole de Dieu. Or, la certitude que c'est la parole de Dieu vient de la foi et pas de la critique. Oui, et c'est en ce sens-là que, de fait, on stérilise. Oui. C'est très important de saisir ça, parce que c'est la seule manière de faire de la théologie. Bon, alors, vous voyez bien ce que saint Thomas nous fait ici, comme tour de passe-passe, hein. Il montre que la douleur a pénétré dans le monde à partir du péché. Ça, c'est la grande tradition, et c'est du saint Paul. La mort a pénétré dans le monde par le péché. S'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas la mort. Or, la douleur, la tristesse, c'est à cause de la mort. Si la mort n'existait pas, il n'y aurait pas de douleur, il n'y aurait pas de tristesse. Il n'y aurait pas d'angoisse. C'est la mort qui commande l'angoisse, la douleur et la tristesse. Or, Jésus n'a pas connu le péché. Donc, il ne doit pas connaître la douleur, la tristesse et l'angoisse. Il a une humanité parfaite. Même si son humanité n'est pas glorieuse, son humanité doit être dans un état de perfection comme celle de l'état de justice originelle. Non. Son humanité est capable de mourir parce qu'il vient pour porter l'iniquité du monde. Et porter l'iniquité du monde, c'est porter la mort, c'est porter toutes les conséquences de la mort, les douleurs et les tristesses. Alors évidemment, il porte la douleur autrement que nous. Alors ça, ce serait très intéressant à bien comprendre. Nous, nous portons la douleur de l'intérieur, si j'ose dire, puisque nous sommes condamnés à mort. La douleur est donc connaturelle à notre état. Nous sommes en connaturalité à la souffrance et à la tristesse. C'est pour ça que l'évacuer d'une façon artificielle, c'est aller contre notre état de nature. Très curieux, ça. Ça, là, il y a un très gros problème au point de vue médecine qui se pose, du reste. C'est un très gros problème. Jusqu'où pouvons-nous artificiellement supprimer la souffrance? Est-ce que ce n'est pas aller contre un état de nature? Soulager, l'art doit coopérer à la nature. et l'art doit coopérer à l'état de nature. Mais l'art n'a pas à supprimer cet état de nature. Et là, ça pose un problème très très délicat, très difficile. On doit aider l'homme à souffrir, pas en augmentant sa souffrance, mais en lui permettant de mieux souffrir. On doit l'aider. Mais on ne doit pas supprimer, ou vouloir à tout prix supprimer. Ce serait le mettre dans un état artificiel, et donc le couper du réalisme. Alors, il faut comprendre que pour nous, la douleur, la tristesse sont comme naturelles à notre état d'être pécheur, né dans le péché, conséquence du péché originel. Tandis que pour le Christ, la douleur pénètre en fonction de son amour. C'est parce qu'il a accepté d'être notre Rédempteur, d'être notre Sauveur, qu'il accepte pleinement cette volonté du Père d'avoir un corps capable de mourir, un corps capable de souffrir. C'est donc en raison de son amour pour les hommes que Jésus accepte la souffrance. Et donc la souffrance est tout de suite positive chez lui. Elle est tout de suite portée comme un instrument, un moyen pour nous sauver. Et pour manifester son amour pour nous, et glorifier le Père. Tandis que pour nous, la souffrance n'est pas premièrement positive. Elle demeure avec sa saveur de mort. Elle provient de la mort, de notre état corruptible, et elle reste liée à ça. Il ne faut pas l'oublier. Il faut toute une éducation de l'Esprit-Saint pour que la souffrance devienne progressivement positive, parce que premièrement elle est négative, elle est pour nous naturellement négative, elle nous est comme naturelle, mais elle est négative, elle est une conséquence du péché, donc elle est une peine. Oui.
Est-ce qu'il y a d'ailleurs quelque chose qui est premièrement négatif dans Christ?
Non, rien, puisque l'âme humaine a pris toutes les qualités et que les déficiences sont portées en vue de la rédemption. Oui. Je le prends par rapport à la douleur, parce que c'est justement le point le plus névralgique, vous voyez. Alors là, ce serait intéressant, une fois qu'on est dans cette piste-là, ce serait très intéressant de se poser la question, comment se fait-il que la philosophie moderne, donc la modernité, met la négation avant l'affirmation? D'où ça vient? Il faut se poser la question. Hein. Et comme la douleur est un aspect négatif en nous, affectif, ça joue sûrement. On voit ordinairement ce primat de la négation sur l'affirmation par le point de vue de l'idéalisme. Et c'est très clair chez Hegel. Dans l'Hegelianisme, c'est très net. Parce que dans l'idéalisme, le point de vue de l'aspect subjectif est premier. Et la négation met en lumière l'aspect subjectif. Quand je nie, je m'exalte. Hein? Quand j'affirme, je me lie. Et donc me lier à l'autre, c'est me mettre relatif à l'autre. Tandis que le nier, c'est m'exalter. Je suis capable de néantiser, hein, dans le langage de Sartre. Et la néantisation, c'est la négation. Mais ça n'explique pas tout, puisque l'idéalisme commence par quelque chose de positif, qui est l'idée. Alors, est-ce que la dernière explication du primat de la négativité sur l'affirmation ne viendrait-elle pas de cet aspect de la douleur? C'est ça qu'il faudrait essayer de comprendre. Maritain et beaucoup d'autres, saint Thomas avant, dit que c'est la souffrance et la douleur qui est le plus grand obstacle pour nous à l'affirmation de l'existence de Dieu. Saint Thomas dit ça au début à propos des voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Maritain l'a repris à propos des athéistes contemporains. Gabriel Marcel l'a repris. C'est normal de le reprendre et de le redire. C'est que l'aspect de la douleur dans le monde, Rostand disait ça aussi. C'est parce que je vois tant de souffrances dans le monde que j'ai tellement de peine d'affirmer l'existence de Dieu. Je voyais hier un jeune encore en Suisse, un garçon très chic, qui viendra sans doute passer quelques jours ici, qui cherche, qui a perdu, il a perdu le sens de Dieu. Et il m'a dit, j'ai perdu le sens de Dieu à cause de la souffrance. Quand je vois ces souffrances terribles, alors il y avait cette chose abominable, vous savez, qui s'est passée à Bruxelles avec ce match. Terrible, vous priez pour ces pauvres. Ce massacre, 25 Italiens massacrés au début du chose, mais massacrés littéralement en fureur, ce match entre l'Angleterre et l'Italie. Ça a commencé par un massacre. Pas les joueurs, pas ceux qui jouaient, mais les supporters qui venaient. Alors évidemment, tout le monde était dans, on voit très bien des jeunes devant ça, cette espèce de tuerie pour le plaisir de tuer. Des jeunes qu'on tue. Alors devant ça, la réflexion immédiate le soir de ce garçon que je voyais, 30 ans, type intelligent, très fin, dit, quand je vois ça, je ne peux pas dire que Dieu existe. C'est affolant. De voir que l'humanité d'aujourd'hui aboutit à cette espèce de tuerie, de brutalité, de massacre. On voit très bien le mal qui s'affiche et la télévision qui met le primat sur le mal. Pas seulement pour les passages du pape, mais pour tout, hein, le primat sur le mal. Tout le temps. Parce que ça éveille davantage la sensibilité, l'affectivité. Alors, on est dans un monde où la manifestation du mal et de la souffrance devient telle que ça aboutit au suicide. Ce monde est inhabitable. Il ne peut plus y avoir. Alors, quand je lui disais, mais non, il y a des... Elle dit, mais ce sont des îlots. Il n'y a plus que des petits îlots où il y a le point de vue positif et l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Tout le reste, non. Alors c'est là où il faudrait se demander intellectuellement, c'est beaucoup plus difficile à préciser, mais je crois que c'est important, parce que cet article 5 à ce point de vue-là a une très grande importance, parce que la douleur sensible, affectivement, c'est justement l'aspect négatif. C'est la lésion du corps, hein. C'est donc la violence. La violence fait un primat du négatif. Alors, est-ce que ce primat du négatif de la souffrance dans notre monde, où on n'arrive pas suffisamment à distinguer et à bien voir la distinction entre le point de vue de l'affectivité et le point de vue intellectuel, est-ce que ce n'est pas un des aspects et peut-être le principal? Parce que l'idéalisme devrait conduire à un positivisme, devrait conduire à un optimisme, Leibniz. Normalement, si l'idée est première, ça conduit à un bruit. Comment se fait-il que l'idéalisme conduit à un primat de la négation? Alors, je crois que c'est parce que l'idéalisme nous replie sur le sujet, dans la subjectivité, et dans la subjectivité, qu'est-ce qu'il y a de premier? C'est la douleur. Nous sommes des gens marqués par la douleur. Et alors, si la douleur... Vous voyez, l'emporte, alors à ce moment-là, on comprend très bien que la négation apparaisse comme première. Et on voit ça par rapport à Dieu. Vous voyez, cette petite remarque de saint Thomas, et cette remarque de tous les contemporains, que la souffrance, c'est le plus grand obstacle, la constatation de la souffrance, de la douleur. Dans la souffrance, la douleur, c'est ce qu'il y a de plus réaliste, hein. La souffrance englobe, la douleur englobe le point de vue intérieur, l'affectivité, ce que nous allons voir. Tandis que la douleur, c'est le point de vue le plus objectif. Et c'est cet aspect par où, justement, nous sommes vulnérables. Nous pouvons être attaqués. N'importe qui peut nous agresser. Cette peur de l'agression, c'est la douleur. Alors, il faut y réfléchir. Deuxième objection. C'est le propre de la chair conçue dans le péché d'être soumise à la nécessité de la douleur. Donc on revient sur la question. Mais la chair du Christ n'a pas été conçue avec le péché, puisqu'elle a été conçue du Saint-Esprit, dans le sein virginal. Elle n'a donc pas été soumise à la nécessité de connaître la douleur. Réponse de saint Thomas. La chair conçue dans le péché est soumise à la douleur nécessairement. Je dirais d'une manière immanente. Oui, nécessairement, mais d'une manière immanente, non seulement du fait de ses principes naturels, mais encore en raison de la culpabilité du péché. Or, cette culpabilité ne se trouve pas dans le Christ, mais seulement les principes naturels. Troisième objection, la jouissance que l'on éprouve à contempler les choses divines diminue le sentiment de la douleur. Expérience de Thomas. Pour nous, c'est peut-être moins, mais c'est vrai, c'est bien vrai. La jouissance que l'on éprouve à contempler les choses divines, vous savez, là, ce qu'on disait de saint Thomas, n'est-ce pas, quand il, les dents, quand on a eu, enlevé une dent, vous avez fait l'expérience aussi, non, disons. Oui. Quand on le consultait chez le dentiste du Moyen-Âge. À ce moment-là, on ne supprimait pas la douleur. On tirait dessus pour arracher une dent. Et saint Thomas se mettait en oraison, en méditation, et il ne sentait plus rien. C'est une façon merveilleuse, vous voyez, de faire que tout le capital de vie est mobilisé par la contemplation. Si tout notre capital de vie est mobilisé par la contemplation, mais oui, notre âme abandonne un peu notre corps. Et notre âme, abandonnant un peu notre corps quant à ses facultés, à ses puissances, mais oui, le corps ressent moins. Une anesthésie merveilleuse. Hein. Évidemment, elle est rare, celle-là. Hein. Donc, elle est très précieuse. La jouissance que l'on éprouve à contempler les choses divines diminue le sentiment de la douleur. C'est ainsi que la considération de l'amour divin rendait pour les martyrs, au milieu de leur supplice, la douleur plus tolérable. Or, l'âme du Christ jouissait souverainement de la contemplation de Dieu, dont elle voyait l'essence. Ainsi qu'il était dit plus haut, elle ne pouvait donc pas éprouver la douleur. Comme il a été dit plus haut, par une dispensation de la puissance divine du Christ, la béatitude était retenue dans l'âme, si bien que, ne rejaillissant pas sur le corps, elle ne lui enlevait pas la passibilité ni la mortalité. Pour la même raison, la jouissance de la contemplation, étant contenue dans l'esprit, ne s'écoulait pas vers les puissances sensibles. Ne s'écoulait pas, c'est très bien. Iandem ratio delectatio contemplationis sic continebatur in mente quod non derivabatur ad vires sensibiles. Donc elle ne dérivait pas, ne s'écoulait pas vers les puissances sensibles. Elle ne supprimait donc pas en elle la douleur. Vous voyez, saint Thomas dit ça très rapidement. C'est très vrai ce que dit saint Thomas. La contemplation est dans l'esprit. Mais comme l'âme est unique, comme de fait, hein, le capital de vie de chacun d'entre nous est limité. Si tout votre capital de vie est retenu vers la contemplation, c'est ce qui explique comment, quand la contemplation est très intense, on tombe en extase. Quand la contemplation est très extase, l'âme quitte un peu le corps. Elle ne l'anime plus. Elle est saisie et elle est prise par la présence de Dieu. Alors, il y a comme une espèce d'absence de l'âme par rapport au corps, une espèce d'absence. Parce que nos facultés, nos vires sensibiles, comme dit saint Thomas, nos puissances sensibles, n'ont plus la même attention. Toute notre ascension est tournée vers Dieu. Il est bien évident que quand on est distrait d'une sainte distraction, qui est la contemplation, la douleur est beaucoup moins sensible. Il n'y a qu'à faire l'expérience très simple. Quand vous prenez une soupe qui n'est pas très bonne et qui est brûlée, n'est-ce pas, qui est désagréable à manger, contemplez, vous la prendrez très facilement. C'est évident, vous ne serez beaucoup moins attentif. Tandis si au contraire, vous êtes là comme un gourmet. Oh, elle est mauvaise, la soupe, et puis à côté. Alors, tout le monde met l'accent là-dessus. On est attentif, vous voyez, aux petits défauts. Si au contraire, vous dépassez ça dans une attitude contemplative, oui, vous savez bien, ça ne supprime pas entièrement. Ça ne supprime pas entièrement, c'est bien évident. Mais ça permet d'avaler plus vite. Vous voyez, de la rapidité des repas par rapport à la contemplation. Alors, parce que la contemplation met que toutes les facultés qui sont en nous sont polarisées dans un sens. Mais ça ne supprime pas. Alors là, c'est tout à fait juste que saint Thomas souligne, et ça je crois que c'est très important à comprendre, c'est que lorsque le Christ était sur la croix, la contemplation du Christ était liée à ce moment-là, d'une façon unique, à sa charité fraternelle, à sa miséricorde. Et donc, il était tout proche du lépreux, tout proche du pécheur. Et c'est dans la miséricorde. La miséricorde ne diminue pas la douleur sensible. La contemplation, oui.